Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure est grave et on se retrouve cette semaine à l'arrêt de bus du destin avec celui qui a traversé les dernières décennies comme une plume qui caresse le vent, croisant les plus grands chefs d'État et célébrités de notre temps, celui qui est à l'origine de la chanson éponyme de Carla Bruni qui a permis à la France de remporter la Coupe du Monde 98, a investi dès 2004 dans un petit réseau social sur le campus de Harvard, a sauvé les 33 mineurs chiliens piégés en 2010 et permis sans le faire exprès l'organisation des premières élections libres en Birmanie depuis plus de 50 ans. Il ne le sait pas mais le monde tournerait pas rond sans lui. Raphaël, bonsoir Raphaël.
Well, hello Gaspar, it's a real pleasure to be here with you now.
Avec nous également celui que la presse surnomme l'antéchrist du millénaire ou l'ange du chaos. C'est selon sa simple naissance a engendré un séisme record de 9,6 sur l'échelle de Richter, provoquant notamment la mort par arrêt cardiaque de Charles Francis Richter lui-même, mais aussi la destruction intégrale des fondations de la moitié des bâtiments publics en Asie du Sud-Est. Il est également à l'origine de la création du groupe Nickelback en 95, ainsi que du piège dans lequel sont tombés les 33 mineurs chiliens en 2010. Cyril, bonsoir Cyril.
Bonsoir à tous.
Enfin, on ne l'avait pas reçu derrière ses micros depuis plusieurs mois. Il fait un retour fracassant ce soir pour être notre caution intellectuelle et littéraire. Grand spécialiste de l'histoire contemporaine des États-Unis, il saura nous éclairer sur la pertinence de ce film, offrant une lecture inédite à travers le prisme le plus important selon lui, mythe fondateur du pays de l'oncle Sam, je veux bien entendu parler de la crevette et de sa pêche. Il a pour l'occasion revêti son plus beau costume de crustacé pour nous parler ce soir. Edouard, bonsoir Edouard.
Bonsoir, mais comment tu sais qu'on me surnomme vraiment la crevette? tu n'étais pas censé savoir cette information-là.
L'odeur. Et on se retrouve ce soir pour parler cinéma, crevette justement, et boîte de chocolat avec l'un des films les plus célèbre de la fin du siècle dernier,
Forrest Gump
de Robert Zemeckis, sorti en 1994. Un petit film s'il en est.
Bon, un petit film si on peut le dire. Ça a été un des plus gros hits de cette fin des années 90 et surtout c'est resté dans la culture comme de nombreuses références. Et cours Forrest, et cours Life is a Box of Chocolate ou...
Peut-être tu regardes en VO?
Ouais.
D'accord, ça.
Ah, il fallait regarder en VF.
Wow. Bah je sais pas, j'étais enfant. Moi, j'ai... You know, Run Forrest Run, ou moi je regarde aussi en allemand Lauf, Lauf.
Alors, incroyable.
Schneller, Forrest, Schneller! Robert Zemeckis, il est né le 14 mai 1952 à Chicago. C'est un réalisateur, producteur et scénariste américain. Il est passionné de cinéma depuis l'enfance et est diplômé de l'Université de Californie du Sud en 73. Il réalise la même année son second court-métrage qui lui permet, de remporter l'Oscar du meilleur film étudiant et surtout d'être paré par un jeune cinéaste et producteur de l'époque, un inconnu, Steven Spielberg. Ce dernier produit alors ses deux premiers longs en 78 et 80. En 84, il réalise À la poursuite du diamant vert avec Michael Douglas et Kathleen Turner, son premier carton au box-office. Un succès qui lui permet alors de travailler confortablement sur un projet qu'il tient à cœur depuis des années, l'histoire d'un jeune Marty McFly et du Doc. Ce sera Retour vers le futur en 1985, un succès colossal et une prouesse visuelle qui lui permet alors d'envisager un nouveau défi, mais l'emprise de vue réelle et animation, ce sera Qui veut la peau de Roger Rabbit. Il enchaîne alors l'année suivante avec les deux suites de Retour vers le futur qu'il tourne coup sur coup, avant de connaître la consécration ultime avec 670 millions de dollars de recettes mondiales et 6 Oscars avec Forrest Gump, un sommet de reconnaissance qu'il ne connaîtra plus jamais au même niveau. Néanmoins, il continue d'enchaîner de jolis succès. Contact en 97.
Il a envisagé de faire un parc d'attractions Forrest Gump ou pas?
Ouais, mais c'était que des réseaux qui s'en occupaient.
Ça s'est très très mal passé.
Contact en 97, Apparence, puis Seul au monde en 2000. Il continue ses expérimentations visuelles en initiant pratiquement à Hollywood la motion capture, le Pôle Express, Beowulf et encore le drôle de Noël de Scrooge, on en avait déjà parlé. Plus discret ces dernières années, il connaît pourtant de certaines difficultés avec le succès public, puisque The Walk, Allié ou encore Bienvenue à Marwen cette année ont été des sacrés bides. Mais son nom restera néanmoins toujours associé à certains des plus grandes réussites des années 80-90 et son association avec Spielberg comme le symbole de toute une génération aujourd'hui reprise par la culture de doux comme les Stranger Things et compagnie. Mais ce soir on parle de son film peut-être le plus célèbre, quoique avec Retour vers le futur il y a une petite concurrence.
Forrest Gump. On t'a bien laissé parler soir. Hein. On t'a laissé dire tes mots tout intelligents. Hein. Faut pas oublier que le sujet principal ce soir c'est les teuteux, c'est les débilos.
Quand t'as parlé de Britney Spears la semaine dernière, fallait bien que je remonte le niveau.
Tout de suite tourner vers nos invités du jour et vers celui qui n'a pas été là depuis longtemps. Edouard, qu'est-ce que t'as pensé de Forrest Gump finalement?
Moi je pleure à chaque fois. J'ai la petite
c'est la première fois que je le vois.
C'est la première fois que je le vois. Non, c'était la première fois que je le voyais en VO et ça m'a beaucoup choqué.
Ah, bah, tiens, ouais.
Parce que ça me manque la VF un peu canadienne qui fait « Je m'appelle Forrest Gump ». Je savais pas qu'il y avait des vraies VF causées.
On va à Boston. Là, ça t'a plu du coup c'est...
Et ouais, non, c'est un film que j'aime beaucoup. Après, je sais pas exactement ce qu'il raconte, si c'est une déclaration d'amour à l'Amérique ou si c'est une détestation de l'Amérique avec toute la guerre du Vietnam qui est extrêmement présente dans le film.
Il est beaucoup trop intelligent pour nous, lui. Hein.
C'était une petite guerre.
Ça, je n'ai pas compris.
Parce qu'il va à la guerre à un moment. Je n'ai pas compris.
Pourtant, il a des illustres ancêtres, hein, on peut en parler.
Et toi, Cyril, peut-être?
Alors moi pour le coup c'était vraiment la première fois que je le voyais.
Sérieusement ?
Je vous l'avoue, je fais cette confession directe, c'est une exclusivité là grave.
Mais quelle enfance as-tu eu ?
Ouais. Beaucoup de... Elle a été difficile, on en parlera une autre.
On change de sujet vite. Et c'est reparti.
C'est la première fois que je le voyais, je veux dire que j'ai été très déçu. Moi j'attendais une seule chose.
Un film sur la course.
J'attendais qu'une seule chose, c'était une interview avec un type de Quotidien qui lui dise « Forrest Gump, êtes-vous autiste ?»
Ah putain, merde.
C'est jamais venu et franchement, j'en suis sorti déçu.
Bah lui, il a senti le besoin de se faire tester, ouais. On a les résultats, waouh, pas top.
Non, il est juste au niveau de Tobé. Bah, pas complètement Tobé, mais juste au niveau.
À 75...
Il peut encore devenir président des États-Unis, tu vois.
À 0,5 près, enfin, on va s'arranger pour trouver ça.
Mais toi, Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit film? Oh, bah, tu avais déjà vu?
Oui, j'avais déjà vu plusieurs fois. Et ouais, effectivement, t'as des trucs un petit peu... C'est un super film, hein, mais t'as des trucs un petit peu gnangnan, etc. Mais bah, t'as envie de pleurer quand même parce que c'est bien foutu. Et puis bah.
Oh, t'as pleuré
Oui, un petit peu. Et je sais pas.
T'as pleuré quand la fille elle jette le caillou en faisant non.
Non, justement, c'est un des rares moments où je fais genre. Oui, la symbolique de tu te trompes. D'accord, c'est bon, c'est la maison où ton père il t'a vu. On sait, merci. On passe à autre chose. Non, c'était plus.
Le caillou il revient.
C'est même la maison, la violente elle-même, tu sais. Non, mais tout le... C'est un film avec beaucoup d'humour. C'est un film... tu parles de déclaration d'amour à l'Amérique et en même temps de parler de des gros problèmes qu'il y a eu. Je trouve que c'est un peu les deux, effectivement, en même temps. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que c'est un film qui rit de lui-même, qui rit un peu de l'endroit là où il est, mais en même temps, il rend aussi hommage à des trucs un peu intéressants qui s'y sont passés. Donc, vraiment un grand film et un film simple. Enfin, c'est pas prise de tête, c'est toujours cool à regarder, mais vraiment très bien. Gaspard ?
Non, moi, c'est un film que j'ai beaucoup vu.
Pour bien tout comprendre, c'est ça.
Et non, genre, je sais pas si j'ai pris du plaisir à le revoir, parce qu'au moment, c'est un peu, genre, par réflexe, je savais exactement quelle scène allait s'enchaîner une après l'autre. Je pense pas que ça soit un film. C'est pas un mauvais film, dans le sens où c'est un film sur, en termes de storytelling, et là, je vous rejoins, c'est d'une efficacité absolument dingue. Après, c'est vraiment le film qui, vous voyez l'image de se torcher le cul, avec la subtilité. Bah, c'est un peu ça pendant 2h20. Et, au d'un moment, c'est un peu, si on n'a pas compris, il insiste. Mais alors après, je suis d'accord avec Edouard, notre invité, France Inter, d'ailleurs, sponsorisé par France Inter.
Toujours.
La crevette masquée, comme on l'appelle.
Il nous le prête.
Guillaume Crevette.
Mais il travaille pas en ce moment, hein, donc.
Bah oui, c'est ça, c'est. Entre deux masques et la même grève.
C'est un film, je pense, qui adopte et qui rend grâce à l'idée, genre, du self-made man américain, de la grande destinée extraordinaire. Après, je pense qu'il se fout pas mal de la gueule de tout le truc en te montrant qu'en fait, tout ça a été le fruit d'une série de hasards et surtout un peu d'idiot.
Bah, très clairement, d'une débilité profonde.
Et c'est ça. Alors après, c'est d'une innocence pure. C'est-à-dire que, certes, il est débile, mais c'est vraiment la pureté incarnée. Et le mec est toujours gentil, toujours louable. Ce serait marrant qu'à un moment, tu sais, genre, il vrille complètement. On découvre qu'il a des tweets homophobes ou un truc vraiment. Mais non, il est parfait.
Bah, ceci dit, quand tu prends. Alors, j'empiète peut-être sur le début, mais c'est ce qu'on va dire après. Mais
t'empiètes là.
Quand il dit
Cyril, t'empiètes. Arrête de dire que c'est lui le vrai fondateur de la Ligue du LOL.
Quand il. Quand il explique.
Ça, c'est non.
Quand il explique que sa mère l'a appelé du nom de Forrest.
Marcel.
Forrest, du nom du mec du Ku Klux Klan, il pourrait y avoir, on sait pas.
Oui, c'est.
Peut-être que finalement, il a pris conscience de son prénom et il s'est dit, je dois l'assumer.
Non, mais après, il y a plein de trucs comme ça dans le film, on reviendra dessus, qui sont très violents et dont il se rend pas compte. C'est-à-dire que bon, le personnage de Jenny, on pourra en parler, c'est peut-être un des problèmes de subtilité du film.
Léger petit problème dans la vie de Jenny, non?
Jenny, des petites emmerdes. Mais en fait, lui, il relève jamais vraiment. Alors, il est un peu couillant, mais son papa, il l'aimait beaucoup, il lui faisait des gros câlins.
J'aimerais que mon papa me fasse ça, moi.
C'est ça,
léger pâte, papa.
Ça veut dire quoi, partir en vacances?
C'est un peu ça pendant tout le film. Non, mais à part ça, il faut reconnaître un truc, c'est que c'est quand même très très efficace. Surtout là où le film est assez dingue et il a été une sorte de pionnier, c'est dans son travail sur les effets spéciaux. On aura à nouveau l'occasion de revenir dessus, mais surtout de le faire pas pour un film genre de science-fiction, mais entre guillemets pour un drame ou une comédie dramatique d'une telle ampleur. C'était assez assez inédit et ça avait d'ailleurs remporté à l'époque l'Oscar des meilleurs effets spéciaux.
Es-tu en train de dire que c'est une fausse plume qu'on suit dès le départ?
Non, c'est une vraie. Ça a été 37 jours de tournage
pour avoir la bonne.
Exactement.
La bonne
et en fait, t'avais les mecs qui soufflaient derrière.
Je crois que je l'ai. Je crois que c'est la bonne. T'es comme parents, ça intéresse la bonne, parce qu'on la refait plus là.
La caméra a pas tourné.
Non, mais du coup, alors, est-ce que Cyril, tu peux rapidement nous faire un petit pitch et on va pouvoir attaquer le film?
Alors, le film commence, Forrest Gump est assis sur un banc et il raconte sa vie à une jeune femme qui est à côté de lui, ils attendent le bus. De cette manière-là, Forrest Gump va raconter sa vie, comment il a été un enfant, comment il est allé à l'école, à l'université, et comment la course et son innocence l'ont mené à traverser l'histoire des États-Unis. Well, they said you was hard. Well, that was just a lie.
Commence au début des années 80 aux États-Unis. On fait alors la connaissance à un arrêt de bus d'un jeune homme habillé dans un costume blanc qui tient sur ses genoux une boîte de chocolat. Et d'ailleurs, je sais pas si vous savez, on vous l'a déjà dit, mais la vie c'est comme une boîte de chocolat, c'est gras et ça on en a plein les doigts.
C'est ça. Et après on fait des AVC.
Exactement. Et on meurt et papy ne va pas en vacances.
Non.
Il raconte alors sa vie comme ça assez spontanément à la personne qui est assise à côté de lui.
Donc on peut dire
qu'il est weirdo.
Il est weirdo et on se rend compte tout de suite qu'il a une manière de parler. Mama always said life's like a box of chocolate.
Bah, au début,
never
je me suis dit.
Know what you get.
Au début, je me suis dit, c'est faut pas aider dans sa geste, tu vois.
Et je me suis dit, heureusement, qu'il n'y avait pas d'écouteurs à l'époque, parce que sinon, c'était fin de l'histoire.
Ah, <end.
rire> Ok, mec.
Et comme tu sais, il parle comme ça, et d'un coup, la meuf, elle dit pardon, et là, il fait, je te passe, pas à toi que je parle, je suis au téléphone, là.
Elle fait tout le film.
Connasse.
Eh, la vie, c'est comme une boîte de chocolat, je t'encule.
C'est la vie qui fait, c'est une très belle histoire. Ok, boomer.
Et du coup, c'est un petit flashback, alors.
Mais oui, ce personnage, on comprend que c'est comment il s'appelle, Forrest. Voilà,
je m'appelle Forrest.
Forrest Gump. Et c'est un petit flashback sur sa vie. On comprend qu'il va nous raconter sa vie. C'est un petit garçon qui est né dans le fin fond de l'Alabama et dans les années 50. Où c'est un petit garçon légèrement avec des problèmes déjà physiques. Il a les jambes de traviole.
Oui, il a un problème de dos, donc il a des jambes avec des qu'on appelle ça, des béquilles un peu. Il vit seul avec sa mère dans une sorte de grande maison blanche coloniale un peu.
Comment vous avez eu la maison déjà?
Alors ça, on avait des champs de coton dans le passé, hein.
Il y avait qui dans les champs
c'est
de coton?
Il y a plus que des prés hein, autour de la maison, il y a plus rien.
Non mais surtout ça c'est un truc qui est posé direct, c'est qu'il nous explique qu'il avait un ancêtre illustre, tu en as parlé tout à l'heure. Et en fait on comprend que c'est un des fondateurs du enfin le fondateur du Ku Klux Klan, mais pour lui c'est un clan.
Oui voilà,
une belle association.
C'est ça. Bah, tu vois avec ce truc où t'as clairement tu comprends que c'est le Ku Klux Klan et lui fait ça devait être bien comme clan et tu fais
association okay. Loi 1901.
Tu dis OK, ça va pas être le plus malin de l'histoire celui-là.
Et la maison accueille de nombreux locataires, notamment à un moment un jeune rocker, parce qu'en fait c'est une pension, et ce jeune rocker ça va être, en fait on le découvre assez rapidement, Elvis Presley, sauf que eux ne le savent pas. Et là en fait on va être initié un peu Edouard à un truc qui va parcourir le film, c'est-à-dire qu'il va rencontrer des célébrités alors que nous on le sait mais lui qui le sait pas.
Bienvenue dans ma baignoire, alors aujourd'hui on accueille Elvis Presley.
Oh merde,
Jerem Gumstar. Mais ouais, il rencontre Jerem Star vraiment. Et du coup ça fait un film super bizarre avec Elvis Presley dans une baignoire. Non, il rencontre Elvis Presley.
C'est François qui a fait.
Non, il rencontre Elvis Presley et je trouve que c'est la plus belle façon de montrer comment Elvis Presley a inventé ce pas. Mmh. Justement, ce jeune Forrest Gump avec ses jambes toutes cabossées et puis toute sa ferraille autour qui l'oblige à marcher bizarrement. Et Elvis, il voit ça, il dit waouh, c'est génial, mec, remonte-moi ça plus doucement.
Non, il dit c'est génial, mec. C'est Eddie Murphy qui fait la voix de Elvis dans le film.
Mais ce qui est drôle, c'est qu'en plus, donc, on découvre que c'est Elvis Presley parce que t'as Forrest et sa mère qui passent dans la rue. Et il y a sur une télé, tu vois Elvis qui danse avec son pas bizarre. Mais est-ce que c'est pas validiste un peu? Parce qu'il lui vole le pas.
Totalement.
Lui, tu vois qu'il est étonné. Et la mère a pas l'air contente en vrai qu'il reprenne le pas. Et on se demande s'il se moque de lui ou non. Ou s'il a repris le pas.
Il n'y a pas de copyright. Il n'y a pas de royalties.
C'est vrai.
Non, surtout, en fait, moi, c'est un truc, tu sais, tu vois souvent dans les biopics de chanteurs, justement, je fais l'impasse. Où tu sais, on apprend qu'en fait, genre, leur grand tube, ils l'ont écrit un peu, genre, sur une anecdote à la con.
Waouh.
Ils ont fait tomber trois casseroles et en fait, ça faisait We Will Rock You. Et en fait,
donc, c'est pas mal ce petit animal, c'est quoi? C'est une cucaracha, señor. Dis donc, vachement bien.
En fait,
redis ça, Pedro.
Et tout le film va être comme ça, en fait, à base de tout ce que tu aimes dans la vie. Écoute, c'est une suite de parfaits hasards issus d'un gros boulet.
Voilà, c'est ça. Mais alors, un gros boulet, on va l'apprendre très vite, puisque quand il faut aller à l'école, on comprend tout de suite que Forrest, il a un petit problème. Il est en dessous de la moyenne, il a un QI de 75. Donc, très clairement, il passe son plus clair de son temps à regarder des mouches.
Et il veut pas passer dans le détecteur de métaux.
Non.
Donc ça c'est un peu chelou en plus.
Ça, il a des baguilles très larges. Et il écoute beaucoup de hard rock. Qu'est-ce qui va se passer? Mais il a surtout un avantage, s'il est très bête, c'est qu'il a une maman qu'il aime beaucoup et qui va du coup coucher avec le proviseur, lui permettre d'arriver à l'école. Et donc en arrivant à l'école, il va rencontrer celle qui va être la deuxième femme de sa vie à part sa maman, c'est
Jenny.
Alors autant Forrest Gump il rencontrait tous les gens les plus cool du monde, Jenny elle va se faire violenter par son père, taxer de la drogue, choper le sida. Elle va faire toutes les erreurs des années 50 à 80.
C'est trop drôle.
Non mais surtout en fait Jenny va être sa seule amie, alors quand il est enfant c'est la seule qui ne le méprise pas, ne le prend pas de haut, ne lui fout pas des tartes ou même lui fout des coups dans les pieds.
C'est terrible ça.
Et c'est grâce à elle d'ailleurs que il perd ses attaches et ses attelles autour des jambes.
Il est poursuivi par des gamins et en fait il va se mettre à courir. En fait, on va découvrir alors qu'il a un véritable don, ce Forrest, c'est qu'il court très vite.
C'est Jenny qui lui dit cours Forrest cours. Exactement. Voilà d'où ça vient. Et c'est là que les attelles se brisent et qu'il se met à courir normalement.
Plus grande punchline de toute l'histoire. Ouais. Le rap n'a pas fait mieux.
Les attelles se brisent au ralenti et là bah
bah ouais t'es un putain d'handicapé mon gars, qu'est-ce que tu croyais,
les croisés tu connais
la carrière est arrivée.
Je m'identifie comme personne valide donc je peux courir.
Donc ce talent il le met rapidement à profit, notamment en intégrant un peu involontairement une équipe de football américain parce qu'on se rend compte qu'il court incroyablement vite.
Bah, ça va devenir son talent quoi.
Exactement, et en fait ça lui permet également de rentrer à l'université puisqu'il reçoit une bourse pour devenir joueur de football américain où en fait le seul truc qu'on lui demande c'est de choper la balle et de courir.
Et l'avantage c'est qu'il pouvait rentrer dans l'équipe vu qu'il avait pas vraiment de capacité intellectuelle, il n'y avait pas de risque à rentrer dans l'équipe.
Il a même relevé le niveau, paraît-il.
Au début, on ne lui donnait pas de casque.
C'est le seul joueur qui n'a eu aucun trauma crânien parce que il n'y a pas grand-chose à traumatiser, quoi. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant. T'as tous ces petits trucs où il joue un peu sur le côté qui est débile avec le coach qui dit c'est vraiment le plus couillon de la team. Mais alors putain, qu'est-ce qu'il court vite. Et t'as tous les supporters qui, quand il chope la balle, fait par là, Forrest, court et le mec trace et il dit.
Parce qu'il confond sa droite et sa gauche, c'est un truc qui revient pendant tout le film.
Il confond tout le temps.
Il devient rapidement un élément clé de l'équipe. Ils sont reçus par le président Kennedy à la Maison Blanche et alors là il va y avoir en fait un truc qu'on reconnaît plusieurs fois dans le film, c'est-à-dire des éléments des éléments visuels de l'époque, des images d'archives dans lesquelles vont être incrustés Tom Hanks et alors plus ou moins bien fait maintenant parce qu'on voit ça 30 ans après.
C'est quand même
ouais,
bien fait,
mais c'est vrai, j'étais bluffé
avec Lyndon Johnson où c'est terrible, tu vois qu'il y a une sorte de mauvais lip sync avec John Lennon
quand tu montes les fesses.
Exactement, mais sinon là c'est en fait on est initié en fait pendant la première demi-heure du film à tout ce que va être le programme pendant 2 heures.
Il va lui serrer la main. Monsieur le président, je crois qu'on veut vous assassiner à Dallas. N'allez pas à Dallas.
Je reviens du futur.
Hey, il est teubé celui-là ou quoi?
Je l'ai lu dans l'almanach. Ah non, c'est le mauvais film.
T'es ouf, en vrai, ça aurait pu être le même plot, quoi.
C'est Biff Tannen qui va vous buter.
Mais du coup, il finit sa fac. Alors, en même temps, on comprend que Jenny évolue parallèlement. Ça va être le deuxième truc du film, c'est que...
Jenny, elle ken.
Voilà, Jenny, elle ken un max. En fait, Jenny, elle évolue parallèlement à la vie de Forrest et elle vit elle aussi. Alors ça, c'est un truc... Forrest Gump, à la base, c'est un roman et dans lequel t'as les personnages de Jenny et Forrest. Jenny est une personnage un peu plus compliqué dans le livre. Et là, en gros, ils l'ont simplifié dans le film pour en faire un personnage qui va uniquement montrer des passages, des périodes des années 50 aux années 80, 90 en fait. Et du coup, Jenny, elle évolue un peu parallèlement. Ils sont un peu vus pendant les années collège, mais surtout, ça va être un nouveau début, une grosse période et une grosse période du film. C'est que Forrest, il va faire quoi?
Il va s'engager dans l'armée.
Il va aller à la guerre, et pas n'importe laquelle.
La guerre du Vietnam.
I'm the son of a son.
This is the end.
Il part au Vietnam, sauf que lui, il trouve ça très sympa, en fait, finalement.
Oui, c'est un grand camp de vacances.
Alors, il y a un petit, voilà, il fait déco, en fait, il va remonter à nouveau dans le car, et cette fois-ci, personne ne veut s'asseoir à côté de lui, à part une personne, et en fait, on comprend être son équivalent afro-américain, qui est...
Boob.
Bob. Et
le duc.
Il venait de Boulogne, alors, bon, c'est la seule voix française du film, c'est un peu bizarre.
Ah, t'as pas vu Carus. Choisi, un cran devant, c'était, 2-7, c'est bon. Non, je vais m'asseoir plutôt.
Forrest, Octogone.
direct.
Eh, moi, je croise un vieux de Congo, Octogone, direct. Hein. Bon, dans les rangs, du coup.
Méthode très peu efficace, car il s'est mort dans les premières minutes de la guerre.
C'est que Booba, en fait, devient rapidement son premier vrai copain, masculin, parce qu'il n'y a que les hommes, qui ont des vrais amis dans la vie.
Donc on comprend que Booba il est un petit peu ami avec Forrest parce que bah il a les mêmes capacités que Forrest.
Exactement.
Et t'as ce moment d'ailleurs un petit peu drôle où t'as le sergent instructeur qui dit.
Bah, tu comprends que Forrest dans l'armée c'est un génie.
C'est un génie, le sergent instructeur qui dit Forrest qui est un pauvre couillon mais qui arrive très bien à faire des trucs militaires parce que faut être un débile mental. Et c'est là qu'on rejoint un petit peu le côté critique parce que c'est vraiment genre en gros tu comprends que Forrest Gump il arrive parce que il obéit un ordre comme un couillon.
Parce qu'il faut être bête pour être dans l'armée. Voilà. Et
que ça marche très bien.
Et qu'on vit dans une société.
Exactement. Et que t'as le sergent instructeur qui fait t'es un putain de génie. Tu finiras général, mon gars!
Tout en l'engueulant! Oui, c'est bon, vous êtes vraiment extraordinaire et vous allez aller très très loin dans la vie!
Goddamn genius! Et du coup, t'as toute cette période de la guerre du Vietnam et surtout bah, Booba qui va lui proposer un plan de carrière à notre cher Forrest. Il va lui proposer pas n'importe quoi, un investissement du futur.
Salut Forrest!
Salut Booba!
Je m'assois là pour m'adosser à toi et toi tu peux t'appuyer contre moi. Comme ça, on peut dormir sans mettre la tête dans la boue. Et tu sais pourquoi on fait une bonne équipe tous les deux? Parce qu'on veille l'un sur l'autre. Comme si on était frères, quoi. Eh, Forrest, tu sais, j'ai réfléchi vachement. Et je voudrais te poser une question très importante. Ça te dirait d'entrer dans le commerce de la crevette avec moi?
D'accord.
Mon vieux, je vais te dire, j'ai vraiment tout calculé. Combien il faut de kilos de crevettes pour payer le bateau? Combien il faut pour l'essence? On peut habiter sur le bateau, comme ça on n'a pas de loyer à payer. Moi, je serai le capitaine et on pourra travailler ensemble, partager tout en deux, comme des frères, comme des associés, 50-50. Et tu sais, Forrest, toutes les crevettes gratos.
C'est une bonne idée.
Et donc en 1967, ils sont envoyés au Vietnam pour servir dans la région du delta du Mékong. Et ça ressemble quand même pas mal à des films de guerre hyper classiques avec tout un tas de petites opérations de routine, de reconnaissance, etc. qui se passent au Vietnam.
C'est très le quotidien du Vietnam.
C'est
quoi.
Très le quotidien c'est du Vietnam dans les années 60.
Là, on a bougé, là.
Parle quoi, là? Sous compris.
Mao.
Mao. Non, mais c'est assez marrant parce que t'as ce côté, justement, où il reprend plein de codes de tous les films qu'il va travestir avec les films de la guerre du Vietnam où t'as les hélicoptères, t'as toute la playlist.
Et t'as beaucoup d'hélicoptères, on dirait Star Wars 9.
Ouais.
Avec tous les destroyers sur l'affiche.
Ah, c'est toi qui l'as vu avant de mourir, c'est ça?
Oui, exactement.
Bâtard. Et du coup, ils ont des petites opérations de reconnaissance, c'est un peu classique, on est en terrain connu. Lol. Jusqu'au jour où ils tombent alors dans une embuscade.
Ambuscade, c'est.
L'ambuscade. C'est un truc italien. C'est l'ambosco.
C'est les fameux renforts italiens qui étaient venus aider les Vietnamiens, ça c'est bien connu.
Et je dirais alors... même une ambubascade.
Oh, parce que Booba meurt.
Parce que Booba meurt.
Merde, j'avais pas du tout venir celle-là.
Booba est mortellement blessé. En fait, Forrest, dans un geste héroïque, utilise son seul talent qui est la course pour sauver tout le monde. Un peu comme dans le film de Mel Gibson, là, tu ne tueras point. C'est-à-dire qu'il court, il va chercher les gens, il les ramène.
Et en fait, à chaque fois, il ramène pas le bon.
Il ramène pas le bon. Et en fait, Booba meurt dans ses bras.
La vie est une chienne. J'ai été en pitbull jusqu'au bout. Oh, j'aimerais tellement voir un cul une dernière fois.
La beauté d'un cul.
Là, et là, c'est le cul de Caris.
Et c'est un peu déchirant pour Forrest parce qu'on sent qu'il a perdu son mermi. Et il a secouru un des personnages très importants aussi du film qui est Lieutenant Dane. Qui est son lieutenant qui, lui, pour le coup, est un grand descendant de soldats qui sont tous morts dans les guerres.
Oui,
et en gros,
t'as un montage et on voit que c'est toujours lui. Ils ont toujours sa gueule. Mais surtout, il y a un truc très drôle, c'est que le premier truc qu'il dit, c'est faites attention à vos pieds. Oui. Et qu'est-ce qu'il perd? Ses pieds.
Voilà. Et donc lui, il se fait faucher les jambes. Enfin, il est obligé de se faire amputer des jambes. Mais on comprend en plus que Forrest Gump l'a un petit peu retiré de son destin, qui était de mourir au champ de bataille au milieu de ses hommes.
Bah, il le dit, moi je voulais mourir sur le terrain, c'était mon destin, et tu m'as empêché, et me voilà comme ça. Mais il a quand même réussi à se renouveler, et désormais il fait partie des experts Manhattan. Donc, c'est ça.
Il avait tellement le seum contre Forrest qu'il a essayé de lui mettre un gros kip, mais...
Et Forrest était tellement gentil, il lui a dit, ah bah vous vous laissez avec votre bras.
Mais c'est vrai qu'il y a ce moment très gênant où il lui dit, tu sais ce que c'est de ne pas avoir de jambes et de ne pas pouvoir marcher.
Et oui, parce que
c'est là genre,
Ouais, nous on connaît ce qui s'est passé, ouais, non, c'est...
Tu fais bien le teuteux, en fait, hein.
I know.
Et bon, alors, tandis que Forrest, lui, se voit remettre la médaille d'honneur par le président Lyndon Johnson, Dan, donc, est amputé de ses jambes, et le 21 octobre 67, à Washington, Forrest croise la route du, je cite, comité de mobilisation nationale pour finir la guerre au Vietnam, parce que c'est pas bien, qui organise une marche vers le Pentagone avec plus de 100 000 personnes. C'est un mouvement, alors, historique, c'est une image pour les Américains qui est très connue, en fait, c'est de tout Washington qui est recouvert de manifestants.
Le mall plein. Ouais,
exactement, parce que fuck Vietnam, quoi.
Ouais. Non, pas fuck Vietnam.
The F word.
Fuck the Vietnam. Let's be people.
Fuck the Vietnam. Ça fait penser. I hate it.
Je pensais à ce fameux tweet de Gradure qui avait posté avec un handicapé en mettant tous unis pour en finir avec les handicapés.
Non. C'est vrai. Vrai. Non.
Hashtag tous pour en finir avec les handicapés.
Sérieusement.
Oui, c'est extraordinaire. C'est un peu le même délire.
Je me propose personnellement de commencer par celui-là.
Bon, alors, il est encouragé par le militant Abby Hoffman, donc celui avec la veste, avec le drapeau des États-Unis, de prendre la parole devant tout le monde. Et alors qu'il est au micro, il reconnaît quelqu'un dans la foule.
Ah ouais.
Bah c'est, non, c'est Jenny qui le reconnaît.
Ouais, c'est après.
Ah
ouais,
en plus,
ouais.
c'est
Abby
terminé,
Hoffman qui dit merci Forrest Gump. Et c'est là Jenny qui est là, genre Forrest, et qui traverse le bassin.
Exactement.
Qui est particulièrement froid. Je vous confirme. Surtout que là, il a pas l'air de faire chaud en plus à cette époque.
Ouais, tomber
surtout
dedans.
Qu'on venait de retirer les crocodiles.
Non,
parce
voilà.
L'habitude, il y a des crocodiles qui se baladent.
Et elle court à l'intérieur, de nouveau, ta-ta-da-da-da. Voilà, image au ralenti, il se retrouve.
Il se prend dans les bras, toute la foule hurle de joie.
Quelle belle image pour mettre fin à la guerre et faire plus l'amour. Mais ils vont pas faire l'amour tout de suite, ils vont plutôt se
balader. Pendant ce temps-là, la famille Booba reçoit le cadavre.
Here you go.
Ouais, désolé, les noirs, on les empaquetait pas. Ouais,
on les saucissonnait avec les autres.
Voilà, c'est ça, c'est politique. Hein, c'est...
Bon, alors en fait, Jenny, qu'est-ce qu'elle est devenue?
Ah bah, Jenny, elle a fait à peu près toutes les conneries possibles imaginables. Elle est...
Mais là, elle fait des trucs assez stylés puis, pour le moment, puisqu'elle s'engage politiquement. On la voit avec les Black Panthers, donc on a un autre moment très important des États-Unis.
On la voit se faire frapper par son mec, un moment politique
et,
important aussi.
Et voilà, ça, c'est voilà, le premier. le premier problème. Je crois que c'est le premier problème qu'on voit vraiment avec Jenny, justement, le moment où elle est dans ce comité des Black Panthers.
Et
elle
avec... le fait où elle se fait violer par
ouais, elle est avec un mec blanc. Qui... Ah oui, non, c'est vrai qu'on.
Ça aussi,
on,
ouais.
On le voit pas. Et là, voilà, elle se fait taper. Et Forrest Gump, bah, en fait, à chaque fois que Jenny a un souci, lui, il pète un câble et il va défoncer la gueule du mec qui lui fait du mal.
Forrest, c'est quand même très triste parce que bon, on comprend que la seule personne qu'il a jamais aimée, c'est Jenny. Il ne l'aura jamais. Il est toujours engagé dans l'armée. Il retourne un peu dans la base. Et en fait, là, il est initié à quelque chose de nouveau. Cyril, à quoi on initie Forrest?
Un plaisir solitaire.
Oh, ping-pong.
Toujours un plaisir de faire du ping-pong tout seul dans sa chambre.
Et on comprend que bah il est très fort.
Ah bah il est pas mauvais, hein. Qu'il s'agit de juste renvoyer la balle dans un sens.
T'imagines,
puis dans
champion du monde de ping-pong, tu vas voir le film, ça fait une heure, tu dis il est bon que dans les trucs d'idiot. Ah, il est bon ping-pong.
Ah, mince.
Ah bah, merci.
D'ailleurs, techniquement, ces séquences, en fait, c'est Tom Hanks, il mettait des sons de ping-pong qui allaient très vite.
Au hasard, après taper au hasard, ils ont remis la.
Pas au hasard. En fait, ils suivaient, oui, mais... le rythme, ça faisait, et il n'y avait pas de balle.
Bah,
et
bien
après,
sûr, voilà, c'est ça.
D'un point de vue en CGI, il rajoutait une balle, mais du coup, les mouvements correspondent bien parce qu'il entendait juste des balles qui faisaient ta 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 ta.
Ah oui, donc il lifte pas. Moi, à un moment, je croyais qu'il pouvait lifter.
Des bruits de mitraillette.
Ta 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 ta.
La moitié des soldats présents qui font des PTSD.
Il devient alors un véritable phénomène. Il est même envoyé où ça pour concourir face aux meilleurs du monde.
En Chine.
En Chine. Grand
épisode.
Communiste.
Et c'est là où il invente le NEM, le communisme, et il a bâti.
Et Mao. Il a inventé Mao.
Ça serait pas mal de mettre une grande muraille ici. Ouais, note tout ce qu'il dit là.
Ah, vous avez des rats, vous devriez bien mettre un grand mur tout au long.
Ça serait pas l'année d'un animal, je sais pas, le coq, le rat. Maintenant, je te dis putain. Et donc, il avait même rencontré jusqu'à John Lennon. On parlait des scènes avec des incrustes un peu, c'est le moment où c'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu mal fait cette incruste, mais on comprend que.
Surtout la scène est très drôle. Il est invité sur un plateau de télé, oui. Il rencontre John Lennon, et en fait, sans faire exprès, qu'est-ce qu'il va dire à John Lennon? C'est les paroles
d'Imagine. Imagine.
Il balance les paroles d'Imagine. Cyril est tout à fait d'accord avec moi.
Imagine. Totalement.
All the people.
Bah, on la chante comme vous voulez. Hein.
En français, en fait, dans la VF, il fait la même chose, mais c'est avec les paroles de les corons de Pierre.
Terre brûlée.
Et d'ailleurs, pour la.
Je reviens du terre brûlée au vent.
Ils ont même pas pris l'effort de le doubler, ils ont collé la voix de Sardou derrière.
Et ils ont mis la tête de Sardou sur la VF.
Dis donc, c'est pas mal du tout.
Des landes de terre.
Et du coup, au début des années des 70s, il va revenir un peu à New York après sa carrière de pongiste, hein, comme on dit. Il va retrouver qui? Il va retrouver.
Leighton. Je sais pas parler anglais.
Non, mais tu faisais bien le toteux jusque-là.
Non, j'essayais juste de parler anglais.
C'est pas bien de te moquer des gens réduits comme
non.
Ça. On dit capable, ok. Donc de Leighton Hanen qui est lui pour le coup devenu complètement. Enfin, il a très mal vécu la perte de ses jambes.
Il s'est initié.
Il est aigri, hein,
plutôt efficacement.
Regarde, tes matchs drift.
Bah oui, en plus il drift.
Oui, il drift pour un coup.
Il a un accident.
Bah, c'est surtout qu'il a l'air. En gros, Leighton Hanen attend Forrest Gump à juste au sortir de l'émission où il était avec John Lennon. Et tu sens qu'il est, névrosé. Il a une vie pas de SDF parce qu'on voit qu'il a une maison, mais bon, il a une vie de marginal. En quelque sorte, il prend sa vie par-dessus la jambe.
Oh, et surtout, on nous montre pas le moment où il a payé 20 balles à un mec pour l'amener en haut de la rampe. Parce qu'en fait, on découvre
oui.
Il est déjà en haut de la rampe qui a l'air de faire quand même 15 mètres. Et
tout
il est en mode genre.
Ça vous épate, hein, ça. Tu vois, je m'en sors très bien. On peut vivre sans jambes.
Alors non, surtout à ce moment-là, du coup, ils commencent à traîner à New York tous les deux. Il y a une super référence, qu'en fait, il y a la musique Everybody Talking at Me, et en fait, qui est une référence au film Macadam Cowboy. Et en fait, ils traversent la route avec Forrest. Il se manque de se faire écraser par un taxi, et il tape sur le taxi et il dit hey, I'm walking here.
I'm walking.
Tu vois pas que je marche.
Comme dans Macadam Cowboy, où c'est Dustin Hoffman qui tapait. Et alors à ce moment-là, j'étais devant ma télé en tant que cinéphile, et j'ai beaucoup rigolé.
Il y a que toi pour te masturber sur ça. Mais non, mais il le fait avec l'accent en plus à la Joe Pesci. Hey, I'm walking. Très classe, quoi, finalement. Et ils vont passer un nouvel an ensemble, un peu le nouvel an de l'enfer. Parce que,
et surtout, bah, il ne pas tant que ça. Ouais.
Un peu, quand même.
Hein. Et finalement, il se fait un ami à cette occasion. Alors, c'est vrai que c'est un nouvel an un peu bizarre, parce que du coup, bon, ils font le nouvel an, il y a les bouteilles de champagne qui sautent. Forrest Gump voit que finalement, il n'intéresse pas trop les gens. Et
ils vont voir les putes.
Voilà, il y a deux putes qui restent avec eux. Et finalement, après, ils rentrent. Et donc, chaque prostituée s'occupe de Dan et de Forrest. Et Forrest, on rejette violemment la prostituée qui essaie de l'embrasser. On apprendra que c'est parce qu'elle sent elle sent le cendrier ou elle sent la cigarette.
La crevette, ça m'excite.
Et en fait, et juste après l'avoir rejetée, la prostituée se défend et tout, et agressée et violente, agressive. Et là, le lieutenant Dan en fait prend la défense de Forrest Gump. Mm. Donc c'est la naissance d'une amitié, ce 31 décembre.
Et de la manière de nier aussi le harcèlement sexuel.
Mais arrête, ça va, il t'a rien fait. Ça va, il t'a poussé, je suis sûr que tu l'as provoqué.
Tu disais pas ça la semaine dernière avec Harvey, hein, bon. C'est ça. Et du coup, c'est un petit peu la fin de la carrière de pongiste.
Pongiste, maintenant il est devenu pongiste.
On dit pongiste ou pongiste?
Pongiste, tout à l'heure.
On dit pongiste. Non, c'est parce qu'il éponge. Et il est quand même invité par le président Nixon, qui le fait loger à l'hôtel du Watergate, où Forrest Gump, en tant que bon citoyen qui a envie de dormir, n'hésite pas à signaler des nuisances
lumineuses.
Exactement, lumineuses, c'est ça.
Qui l'empêche de dormir.
Écoutez, en face du Watergate, il y a des gens qui de lumière, c'est bizarre.
Alors que s'il avait mis un masque comme tout le monde, il n'y aurait jamais eu de problème. Et si grand Nixon serait resté.
S'il avait fermé les stores.
S'il avait fermé les stores. Mais oui, comme tout le monde. Mais il n'y a peut-être pas de store au Watergate. Il est très connu pour ça.
Ah, mais c'est ça. Anti-store.
Anti-store Watergate.
Et du coup, après ça, en fait, Nixon est du coup obligé de démissionner. Forrest, lui, est libéré de l'armée.
Il s'en bat les couilles.
Et en fait, maintenant qu'il n'est plus l'armée, bah, il n'a rien d'autre à faire si ce n'est rentrer chez maman.
Et comme ça, mon service dans l'armée des États-Unis était terminé. Alors je suis rentré chez moi. Je rentre, maman.
Oh, je sais, je sais. Louise,
en rentrant chez moi, je ne
il
me doutais pas que maman avait eu toutes sortes de visiteurs.
Oh, nous avons eu toutes sortes de visiteurs, Forrest. Tout le monde veut que tu utilises leur matériel de ping-pong. Il y a même un homme qui a laissé un chèque de $25,000 pour le cas où tu accepterais de dire que tu aimes utiliser ses raquettes.
Oh, maman, j'aime seulement me servir de mes propres raquettes. Bonjour, Miss Louise.
Bonjour, Forrest.
Je le sais bien, je le sais bien. Mais... c'est $25,000, Forrest, alors je pense que tu peux t'en servir un moment, voir si ça te plaît.
Forrest Gump revient chez maman, dans l'Alabama, et là, on découvre que justement, il avait lancé sa marque de raquettes quand il était pongiste, et qu'il a gagné énormément d'argent avec les royalties de la marque, donc dans la maison, il y a plein de goodies, etc.
Il avait aussi lancé sa marque de lance-flammes pendant le Vietnam, ça a pas trop marché.
Mais surtout une super raquette avec la tête de Mao dessus, oui, c'est génial, sur le côté rouge.
Alors côté rouge, Mao, et côté droit, Nixon, je crois, ou c'est
non, c'est Forrest Gump,
c'est lui. Ah, c'est lui.
Je sais même plus. Mais t'as Mao dessus, c'est quand même un problème. Et du coup, qu'est-ce qu'il en profite pour faire ?
Eh ben, il va mettre à profit l'argent, les royalties, pour faire le grand projet, la grande aventure de sa vie, le Boba Shrimp Business.
Exactement. Il va acheter un bateau pour aller pêcher la crevette dans le bayou, en fait.
Et c'est là qu'on peut, je vais faire juste une petite interruption pour parler de mes vacances. Je suis allé donc aux États-Unis et je suis allé dans deux lieux où tu peux voir, enfin, un lieu où tu peux voir les trucs de Forrest Gump. J'étais à Savannah, qui est l'endroit où il est à la fin et au début, en fait, sur le banc. Ça se passe à Savannah. D'ailleurs, le banc où ils ont tourné, t'as une petite plaque en disant voilà.
Tiens, Clodo qui dort.
Il a pas été mis au musée, le banc même. Il me semble qu'il est dans un musée, le banc même. Et...
ah, peut-être. Bon, enfin, en tout cas, t'as un banc avec le truc. Donc, je suppose que c'est le spot où ils ont filmé. Ils ont peut-être pris le banc en tant que tel.
Parce que c'est un personnage principal, ce banc.
Ah bah, en tout cas, on.
Bah, sans lui, il se reste par terre. Hein.
Mama said it.
Et lui, on lui jette des pièces.
Non, mais je veux raconter une histoire. T'as raison.
Non, Wonderwall.
Et t'as notamment parce que Booba Gump, les shrimp de Booba Gump, c'est des vrais. C'est une
ça
vraie
s'appelle Lunatic.
C'est un super groupe.
Sur Times Square à New York, il y a une boutique Booba Gump.
Et bah, t'as une boutique Booba Gump et t'en as à Savannah notamment. Donc j'ai mangé des Booba Gump shrimp. Et bah, c'est des shrimp dégueulasses à l'américaine, quoi. C'est vraiment pas terrible.
Mais attends, mais du coup, ils les vendent comment? Ils vendent genre, c'est quoi? C'est comme le thon. Imaginons, t'as les boîtes de thon que tu trouves.
Non, tu tends les mains, ils te mettent autant de crevettes que tu peux tenir.
Tu mets la crevette et tu la décortiques avec les doigts, du coup.
Ciselée dans l'huile. Non, non, mais c'est
tu dois dire merci.
T'as plein de manières de le faire. Tu vois, c'est comme quand Booba t'énonce toutes les manières de faire les shrimps, t'as toutes les manières de faire Booba Gum Shrimp. Et t'as donc dans la boutique officielle à Savannah plein d'accessoires du film qui ont été récupérés, donc c'était assez
c'est voir ça. Voilà. On peut revenir à un truc intéressant.
Voilà, du coup, il achète
un bateau et en fait, il va être aidé par le lieutenant Dan qui va vite le rejoindre.
Et il va surtout être aidé par Dieu.
Et c'est pas faux. C'est pas faux, tu peux nous parler rapidement en fait pourquoi Dieu peut nous sauver et le catholicisme est la seule vérité derrière la génétique.
Je ne sais pas. Non mais
on te le dit.
Tu sais pas, t'as pas regardé notre épisode sur la dialectique?
Sur la dialectique, ouais. Selon Hegel.
La dialectique. La dialectique.
On lui fait un test à la fin.
Oui, très
on
bien.
On fait un test à la fin.
Très bonne idée.
J'ai de l'aluminium dans la cuisine. On va s'amuser.
On va voir tes tétans.
Et oui, parce que Forrest Gump se met au gospel. Et qui l'eût cru, mais le gospel aide à pêcher de crevettes. Hein, c'est ce que nous apprend ce film. Et je pense que c'est l'apprentissage principal. Si vous voulez vous lancer dans un business, faites du gospel.
N'importe quel business d'ailleurs.
Et n'importe quel gospel.
Que tu sois.
N'importe quel gospel.
Est-ce que si tu mets pas de crème solaire sur ton enfant, est-ce qu'on peut dire que le gospel?
Oh là 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 là.
Tu sais que j'ai eu très peur de où partait cette vanne. Et en fait, c'est encore pire que ce que j'imaginais.
T'en avais déjà entendu des comme ça? D'où t'avais pas encore
jamais
entendu les...
Bref, du coup, Dieu leur prête main forte. Ils ont un putain de succès parce qu'après l'ouragan Carmen, ils sont les seuls à avoir un bateau qui fonctionne. Et ils deviennent en fait les seuls pêcheurs de crevettes à Savannah, là, ton truc où personne n'y va.
Savannah.
Et en fait, ils sont croulent sous les demandes.
Ils deviennent
ils font de Booba Gump, comme tu disais, et ils deviennent multimillionnaires. Le lieutenant Dan part continuer à créer Booba Gump parce que Forrest est obligé de rentrer pour s'occuper de sa mère qui est
malade.
Malade.
La maman se meurt.
Maman meurt, du coup.
Et donc, maman est morte. Bah oui, parce que c'est le.
Pas, en revanche, elle ne meurt et qu'est-ce qu'elle en profite juste avant de mourir? C'est balancer le plus possible de phrases à mort moins de
exactement.
Voilà, c'est comme une boîte de chocolat.
Saisis ton destin, je serai toujours ta meilleure amie. Enfin,
danse le Mia.
Oui, c'est ça, surtout. Et elle en profite pour coucher une dernière fois avec le principal.
C'est ça.
Mais maman, je suis plus à l'école. Ouais, bon, bah les couilles. Tu vas y aller dans cette école.
Et alors, il continue de recevoir de l'argent grâce au lieutenant Dan.
En gros, on comprend que pour lui, l'argent n'est plus un problème. Donc, c'est un petit peu le moment où le film fait bon, hé. Le plot, il est complètement terminé.
Ah oui, maintenant je fais plaisir.
On a autant
il reste quoi, une heure.
C'est le God Mode de Forrest Gump.
Exactement ça, c'est le God Mode.
Hier, j'étais devant le film en me disant genre ah c'est bon, c'est fini. Et en fait, non, il reste 45 minutes à ce moment-là. Alors qu'en fait, le film est fini.
J'ai fait pause pour aller aux toilettes à ce moment-là, moi aussi. Tu vois.
Il y a plus vraiment.
T'as jamais remis play.
Je ne suis jamais sorti des toilettes.
Non, en fait, le
merci
film,
d'être venu jusque là, les mecs.
J'aime bien le film, mais là, faut sans déconner, faut accélérer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où on comprend que le lieu Nandan, lui, a investi dans une marque de pommes. Alors, en fait, c'est une succession de coups de coude pendant tout le film. Et alors là, c'est vraiment le coup de coude de... En fait, c'est Apple Company. Donc, ils deviennent multimilliardaires.
Ouais.
Donc, il a plus besoin de travailler.
Mais en gros, le mec a trop de thunes. Et t'en profites pour avoir un nouveau coup du destin. Qui revient? Jésus.
Génie revient parmi les tiens.
Avec le sida, montre-nous là-bas.
Non, elle n'est pas encore malade.
Et alors, elle revient et elle dit, écoute, mon petit Forrest, j'ai envie de me calmer un petit peu.
Exactement.
Et elle fait une petite...
Parce qu'elle met même pas 48 heures, parce qu'en fait elle revient, ils sont assez calmes.
Et puis
qu'est-ce que fait Forrest?
Il lui dit qu'il l'aime. Il me semble qu'il lui demande de l'épouser.
Exactement.
Et
il me semble qu'elle lui dit non.
Il me semble qu'elle lui dit non. Tu ne sais pas ce que c'est que l'amour.
Elle lui lâche son meilleur vu.
Tant que tu n'as pas fait un gangbang sous une tente à Washington avec les Black Panthers, tu ne sais pas ce que c'est que l'amour.
et alors à ce moment-là, non, c'est ça, le lendemain, mais le soir même, ils couchent ensemble et le lendemain matin, un taxi arrive comme par magie.
Oui.
Hein, parce qu'on n'a pas vu de téléphone dans cette maison.
Uber.
Ah mais oui.
Bah oui, c'est une putain de hipster.
Les fameux iPhone de 1976.
Surtout ce qui est dingue, c'est que on nous montre pas, parce que moi c'est un truc qui me fascine et je suis très déçu de pas le voir dans le film, Forrest Gump qui baise quoi.
J'ai pas envie de le voir.
Il y a un film qui s'appelle Les Idiots.
Ah oui.
Ouais, qui est très malaisant.
Le problème c'est qu'on aurait pu le voir, mais ça s'arrête avant.
Bah c'est ça qui est dommage, c'est que est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il dit c'est tout chaud?
Mais même parce que tu sais, bah du coup il y a la scène. Alors là je reviens avant qu'il parte au Vietnam,
quand sa mère est en train de mourir.
Quand il est avec Jenny, quand Jenny est à la fac, que Jenny l'héberge un soir quand elle est étudiante dans une université de jeunes filles.
Coeds, comme on dit.
Coeds, exactement. Et elle l'héberge, et là, Forrest avoue qu'il n'a jamais eu de copine. Et là, Jenny se dit, bon, d'accord, je vais te donner un coup de main. Et en fait, bah, elle a pas le temps de le faire.
Parce qu'il, voilà, quoi. Il salit le drap de sa,
exactement.
De sa voisine
sa
de chambre.
Coloc, et c'est pas un problème d'ailleurs parce qu'on déteste la coloc.
Exactement.
Et d'ailleurs, soit dit en passant, c'est un peu probablement ce qui pousse Jenny vers son destin funeste. Parce que on peut imaginer que c'est à cause de ça, parce que la coloc ne dort pas à ce moment-là, elle va se faire virer, et c'est à partir de là que du coup Jenny va...
Tout ça à cause d'une éjaculation précoce.
Voilà.
C'est triste.
Alors, tout ce podcast pour vous dire, parlez-en à votre médecin. Il existe des solutions. C'est pas normal, mais ça peut se guérir.
Après, comme j'ai dit que si vous ne couchez pas au moins 3 fois par semaine avec une fille, vous êtes des nuls.
Des gros nazes. Nous, on couche avec des filles et des garçons au moins 3 à 4
tous
fois par
les
semaine.
Soirs, mais je ne
surtout des garçons.
Ça. D'ailleurs, après ce podcast, on va tous se faire les fesses, les amis.
Bon, bref, le cœur brisé, Forrest se décide alors de se mettre à courir sans but, droit devant lui, sans jamais s'arrêter. Et alors là, vraiment, le cours, Forrest, cours, c'est, ça devient en fait un marathon de plus de 3 ans.
De 45 minutes, pour être plus précis, dans le film.
Oui, mais c'est 3 ans.
C'est à nouveau un montage, ou à nouveau pendant 10 minutes, dès qu'il va faire un truc, ça va devenir une putain de success story dans l'histoire des États-Unis.
D'ailleurs, c'est un peu con, mais je pensais, alors, c'est une référence directe au Marathon of Hope. C'était un Canadien, je crois, à la base, ou un Américain, je sais plus, qui avait une maladie dégénérative, un truc affreux qui lui bouffait entièrement le corps.
Il est obligé à courir et ça faisait rire tout le monde. Astro, il court. En fait,
chaque fois qu'il courait, ça couinait sur sa jambe gangrénée. Non, c'est un mec pour le coup qui s'est fait genre amputer une jambe et tout et qui courait sur une jambe comme le lieutenant Dan.
Il sautillait du coup.
C'est-à-dire une espèce de jambe en. Voilà. Et donc je pense que c'est une référence à ça parce que ce Marathon of Hope, il avait fait tous les États-Unis en courant avant de mourir et t'as des statues de ce mec un peu partout. Et donc là, en gros, t'as plein de références, plein de trucs à. Voilà, shit happens.
Il décide alors de rentrer après ce marathon. En plein milieu du désert, il décide en fait, j'arrête de courir, je rentre à pied en plus, ce con.
Et tous ses fans, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant sans toi?
Exactement.
Mais là, voilà, pardon, c'est ça que je me demandais. Est-ce que c'était aussi une référence à la mode du jogging qui arrivait? Je sais pas s'il y a eu une mode à un moment qui. S'il y a que moi qui se pose cette question.
Oui.
Bon, on peut passer à la suite.
On en arrive alors au présent où Forrest se retrouve à cet arrêt de bus en train de raconter cette histoire et il met un miroir et on se retrouve nous-mêmes en train de regarder dans le film et ça devient complètement méta. Et en fait, on est dans un film de Dupieux.
Mais non, en fait, on comprend que c'est le film fait. C'est la plus longue manière de demander son chemin.
Exactement.
Parce qu'il finit par dire c'est où le truc, elle fait c'est juste en face, connard. Ah bien sûr, excusez-moi, à raconter toute ma vie, c'est pas grave, j'ai des petits enfants maintenant, hey connard.
Il aurait pu, la grand-mère aurait pu dire tu connais City Mapper, c'est oui, fantastique.
C'est quand même effrayant, c'est que depuis le début le premier truc qu'il avait dit c'est où l'adresse, en fait le film serait un court métrage.
Ouais.
Merci. En
fait, on comprend qu'il vient rendre visite à
Jésus. Jenny, l'autre, c'est la deuxième. Right.
Et qu'est-ce qu'il va faire quand il arrive chez Jenny?
Il se met tout nu.
Il lui fait le Naked Man.
Et non, il découvre un petit garçon. Et Jenny lui dit, il s'appelle Forrest Junior Gump.
Pourquoi Forrest? C'est comme moi? Comme son daddy. C'est toi son daddy.
Tu te souviens quand ça t'a fait tout chose dans le dos?
Ça fait des bébés.
Quoi? Mais j'ai fait ça avec plein de femmes. Merde.
Et plein de mecs. Non, ça, les mecs, c'est pas un problème.
Et du coup, et du coup, on comprend qu'il a un petit garçon. Son petit garçon qui, lui, pour le coup, il est pas teuteux.
Ce que Jenny lui dit de suite. Et oui. tu sens que ça lui pèse, Forrest.
Non, c'est Forrest qui pose la question en plus.
Oui, c'est Forrest.
Parce qu'en fait, Forrest est conscient d'être un teuteux.
Oui, exactement.
En plus, je pense que c'est un des moments les plus déchirants où il se rend compte qu'il est père et qu'il est terrifié du fait que son fils soit comme lui. Et qui dit, Jenny, ce qui est comme moi, il fait non, il t'inquiète. Bah,
il sera pas riche. Il sera pas riche.
Et sinon, je l'aurais noyé. Enfin, c'est clairement.
Comme les petits chats.
Et non, du coup, ça fait une super scène de t'es papa. Je vais mourir.
Pardon.
The end.
Et l'Oscar revient.
Il y avait un dernier clin d'œil offert à l'actualité, et c'est le SIDA.
C'est ça. Du coup, en fait, on comprend qu'ils retournent tous s'installer dans la grande maison coloniale du début. Et en fait, parce que Jenny est en train de mourir, Jenny a le SIDA, mais on le dit pas parce que c'est une époque où on ne dit pas qu'on a un virus.
Mais moi, la question que je me suis posée, en fait, c'est est-ce qu'on sait pas, peut-être qu'elle avait déjà le virus, enfin, elle avait déjà le virus, mais pas forcément le syndrome.
Forrest, elle a couché.
Au moment où ils couchent ensemble.
Donc, la question que je me suis posée.
Et en fait, c'est pour ça qu'après, il faut enchaîner Forrest Gump avec Philadelphia.
Ou Forrest Gump 2. Ah, Forrest Gump Junior, je meurs.
Non, mais en revanche, on dit qu'il est normal, mais en même temps, Forrest Gump Junior, il va avoir des petits problèmes dans la vie, puisqu'il va finir par avoir les morts quelques années après.
Oui, ça se passe très mal pour lui.
Parce que c'est l'acteur du sixième sens, là, j'explique mes blagues où j'en arrive.
Il est très bizarre d'ailleurs, ce petit, il parle avec un sérieux. Bonjour Forrest Gump, je suis Forrest Gump, ton fils.
Ah ok, super. Tu as regardé les dessins animés?
Oui papa, pourquoi
tu as
pas
traversé l'histoire des États-Unis pendant 50 ans. Laisse-moi te raconter ta vie. Touche mon crâne. Et là, il a les pupilles qui se retournent comme ça.
C'est un vieux Stephen King, en fait, le truc.
Bref, il rentre. Et là, Jenny, pouf, elle meurt. Au bout d'un an. Et Jenny, on l'enterre sous l'arbre.
Où ils se retrouvaient quand ils étaient petits.
Et en fait, d'un coup, il y a un petit écho. C'est si, que...
il amène son fils au bus.
Exactement. Et son fils, il se fait vicose.
Hey, bon, ton père, il est con.
Sweet home,
Non, pardon.
Très bonne blague.
Excusez-moi. C'était Forrest Gump, ce très très grand film sur un très très grand monsieur, qui a donc parcouru l'histoire des États-Unis telle une petite plume qui balaye au vent de l'histoire.
Sans même s'en rendre compte.
Exactement.
Et c'est ça qui est beau finalement.
Un peu comme toi qui est passé à côté de tellement d'opportunités dans ta vie pour finir là où tu en es. Cyril, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film alors ?
Malgré la déception que j'ai pu évoquer au tout début, c'est un film qui m'a malgré tout fait plaisir. Parce que j'ai trouvé drôle, c'est très lourd, je suis d'accord. La succession de clins d'œil, à dire genre, hé, on l'a vu celui-là. Mais,
surtout qu'il y a marqué en dessous, hein.
Ceci est une référence.
Mais à partir du moment où on regarde le film sous cet angle, bah on se dit genre, bon, ok, t'as marqué un point, c'est bon. Et de ce point de vue-là, bon, c'est distrayant. Faut pas que ça dure 2 heures non plus.
Bah, c'est un peu le problème. Ouais.
Ça dure 2h20, c'est tout le problème. Mais, comme on a dit, c'est l'arc de fin où vraiment là, on atteint.
Oui,
et là, il fallait pas aller plus loin. Donc voilà, c'est distrayant. Moi, c'était la première fois que je le voyais. Donc j'ai enfin pu comprendre d'où venaient toutes ces références et ces gifs que j'envoie à mes multiples conquêtes.
Et toi, Edouard ?
Donc, ouais, c'est un film qui me fait pleurer à chaque fois. Et il me fait beaucoup plus pleurer en VF qu'en VO d'ailleurs. Mmh. Alors, je tiens à le préciser.
C'est toi qui pleures en VF ou en VO ?
Moi, je pleure en VF.
D'accord.
Non, mais c'est insupportable. On peut pas regarder la VF du coup. T'es toujours tes cris derrière. Booba est mort !
Et ouais non mais du coup enfin tout à l'heure quand on en reparlait de la mort de Jenny tu vois c'est un film qui m'émeut à chaque fois et en même temps un peu comme ce que tout le monde a dit c'est voilà c'est lourd sur certains points mais moi ce que j'aime bien dans ce film en fait c'est qu'à chaque fois que je le regarde j'imagine en fait que Forrest Gump n'existe pas parce que
en fait dans la tête du gamin à la fin en fait il est mort
non mais tu sais parce que tu le vois courir tout au début et ses jambes en fer se cassent et tout d'un coup il se met à courir ce qui est totalement irréaliste même à un moment t'as un nuage de fumée un peu comme dans les dessins animés pour montrer qu'il court super vite et du coup j'imagine que c'est un banc qui parle pendant tout le film aux gens qui s'assoient dessus en racontant une histoire.
Ouais, voilà. J'ai l'histoire à vous raconter. C'est un teuteux. J'ai rencontré le président 3 fois.
Voilà, c'est un banc qui a des petits problèmes dans sa tête de banc.
Et toi, mon rafiche pichou.
Oh bah écoute, c'était un plaisir de le revoir. Effectivement, c'est un film plein d'émotions que ça fait pleurer dans le cœur. En même temps, c'est vraiment la patte de ce mec, Varoufakis, je sais plus comment il s'appelle.
Zemeckis.
Parce qu'en plus, il a sauvé la Grèce.
Et oui.
Et non. Tsipras, il a dit non.
Il est au cinéma. Retour vers la croissance.
Raté encore une fois. Non mais c'est il y a une qualité indéniable à ce film.
Ah bah c'est le storytelling.
Ça marche hyper bien, c'est hyper feel good en même temps, t'as des émotions, c'est toujours, même quand c'est triste, un peu uplifting, t'as toujours un côté, bon bah tu vois, always look on the bright side of life, comme lui il fait, mais en fait lui c'est always look on the dumb side of life, donc il se rend pas vraiment compte de ce qui se passe, mais c'est super plaisant. Effectivement, là pour l'avoir revu hier, les dernières 45 minutes où tu te dis, ah bah c'est enfin la fin, il reste 15 minutes, oh, j'ai vraiment bien aimé, là tu fais... Il reste 45 minutes, il n'a pas encore attaqué son marathon de 3 ans. Et tu fais genre, ok, bon là, ça va être un peu long. Mais à part ça, ouais, c'est super. En fait, c'est un film qu'il faut voir, au-delà du côté... Avec les yeux de préférence, et avec son cœur surtout. Au-delà des références, c'est juste que c'est un film hyper efficace. Voilà, t'enlèves un peu, tu raccourcis les dernières 45 minutes, t'as un truc qui est parfait de A à Z, quoi. Et toi, Gaspard ?
Bah, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'on... Je crois que c'est la première fois qu'on est aussi d'accord sur un truc.
Et alors, les handicapés, on devrait pas les mettre dans...
dans des boîtes. Non, en termes de lourdeur, c'est un film qui quand même touche des sommets. Mais après, je suis d'accord pour dire que en termes de pur storytelling et d'efficacité, c'est quand même très très fort. Surtout, moi, je tiens à dire que Robert Zemeckis, bon, certes, il a eu l'Oscar pour ce film, mais c'est quand même un très très grand cinéaste. Merde, faut le dire, Retour vers le futur, le 1, le 2. Moi, je suis un peu partagé sur le 3, mais en tout cas, le 1 et le 2, c'est absolument exceptionnel.
C'est fort. Mais en
pur terme de racontage, mais exactement, et de cinéma. Donc, et pour ça, et surtout, moi, je tiens à saluer un truc chez Zemeckis, c'est que c'est un type qui, en fait, a toujours essayé de pousser les curseurs un peu à la
se remettre debout.
Oui, exactement. Mais surtout à pousser les curseurs des effets visuels et de la technique au cinéma sans en faire des trucs de dingue, en rendant toujours ça très accessible par les histoires.
C'est discret, c'est pas.
Exactement.
C'est pas poussé en mode genre, tu veux pas qu'on fasse un monde entier où les gens sont bleus et font 3 mètres ?
Non, c'est ça.
Waouh, ok.
Non, alors,
James Cameron Avatar.
J'étais en train de dire justement que James Cameron était le génie ultime.
Oui, il est très fort, mais je veux dire, il fait pas. En fait, tout le film, c'est vraiment. Il se sert pour sublimer son film des effets spéciaux. Là où
t'as
les gens qui font
Zemeckis, c'est à la deuxième place. Cameron sera toujours au-dessus.
Si tu veux.
Mais non, mais en tout cas, je trouve ça très fort. Et surtout, même ces dernières expérimentations depuis les 15 dernières années sont assez intéressantes. On était trois dans la salle pour voir Marwen. C'était pas fou, mais c'était intéressant.
Son dernier film, Home Tape, je chie sur une corde de violon pour voir ce que ça fait. C'est quand même une drôle d'expérimentation.
Oui, mais c'est en 3D.
Oui.
Ouais,
c'était Steve Carell en plus.
Exactement.
Et même Steve Carell ne rattrape pas le film. Je l'ai pas vu.
Et si, non. En fait, le film est assez touchant et un peu raté. C'est pas le sujet de l'émission. Mais surtout, je tiens à le dire, en fait, petit twist, c'est limite une sorte de Retour vers le futur 4.
Waouh.
Et il y a une petite coquille cachée là-dedans. Donc, allez voir, bienvenue à Marwen. On n'était pas nombreux à le voir.
Marwen, ensemble. Il faut que tu retournes dans le passé pour niquer ta mère.
Pour niquer la film de Zemeckis. Est-ce que, Doud, tu as une petite roco pour nous?
Ouais, bah, on va recommander un truc que tout le monde a vu. Du coup, ça n'a aucun intérêt. C'est Pulp Fiction. C'est Pulp Fiction. Parce que, en fait, j'ai appris récemment que, donc, il est sorti la même année que Forrest Gump. Il l'a battu aux Oscars. Et qu'en fait, John Travolta avait été pressenti pour le rôle de Forrest Gump et a dit non, justement, pour jouer dans Pulp Fiction.
Et qu'il a dit en même temps que c'était un de ses plus gros regrets. Une de ses plus grosses erreurs de pas avoir.
Alors que Pulp Fiction est quand même assez exceptionnel.
Ah oui.
Voilà, c'était l'occasion de ramener ma
science. Savoir que l'Oscar a été attribué à Tom Hanks cette année-ci. Ouais. Il a été attribué l'année suivante à nouveau à Tom Hanks. C'est une des seules fois, voire la seule fois de l'histoire des Oscars où c'est arrivé.
Pourquoi il a eu la seconde fois?
Pour Philadelphia, justement.
Ah.
Et petite info, je le cale, Tom Hanks n'a pas été payé sur Forrest Gump.
Oui,
il avait dit.
Il a eu un intéressement.
Un intéressement. Et il s'est fait 40 millions de dollars. Mais
Non, il a été payé 7 millions de dollars et il a eu un intéressement à hauteur de 35 millions du coup.
Bah, ça fait 42.
Ça fait un peu plus, ouais.
Alors, Marocco n'a rien à voir avec le cinéma. Pour le coup, je change totalement de sujet. Il y a un petit resto qui est ouvert à côté de chez moi qui s'appelle La Gorgée. Très sympa. Voilà, c'est tout.
Écoute, merci pour tes recommandations culinaires. C'est vrai qu'on n'y avait pas encore pensé.
Ça a ouvert il n'y a pas longtemps et j'ai vu le resto se créer et tout. Et les saveurs sont vraiment très agréables, les gérants et tout. Donc, allez-y.
Et toi, Rafi,
Moi, je vais vous parler d'un livre. Je vous parlais du Le Monde selon Garp de John Irving. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont lu.
Nietzsche a pleuré. C'est un livre qu'il avait écrit avant.
Ouais, j'ai lu celui-là. Mais Le Monde selon Garp, qui est assez sympa, qui a été une surprise que j'ai lu au lycée de manière complètement aléatoire. Mm. Qui me revient là parce que c'est pareil.
Ça et le Capital.
Ouais, c'est ça, voilà. C'est ce genre de livre et en fait d'œuvres qui vont de A à Z de la vie d'un personnage. Enfin, la Z, bon, ça s'arrête à 30-40 ans pour Forrest Gump, mais qui sont des voilà, qui traversent toute la vie d'un personnage assez cool, avec pas mal d'humour, avec pas mal de d'introspection tout, finalement.
Sa seule phrase, c'est My name is Gump.
Johnny Gump. Alors rentrer, monsieur Gump.
I'm cold now.
Et voilà, c'est assez sympa à lire. Mais bon, on se retrouve la semaine prochaine. Enfin non, notre prochain film, ce sera quoi?
Bah, je sais pas, je peux faire une reco, moi.
Pardon, j'ai devancé. Gaspard, tu as une recommandation peut-être?
Oui.
C'était une super recommandation. Le prochain film, on se retrouve après les vacances de Noël.
Eh oui, on se retrouve le 31 janvier. Putain, ça nous amène déjà un peu loin. On va parler d'un chef-d'œuvre oublié, un chef-d'œuvre pas facile à voir, mais un chef-d'œuvre qu'on a vu. On parlera du jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy avec Alain Delon et Ariel Dombal.
Ça promet.
Et notre prochain épisode.
Et on peut le dire d'ailleurs, on aura le plaisir de vous retrouver chacun, Doud et Cyril, parce que vous venez de signer votre arrêt de mort en disant que vous venez pour ce
en
film.
En acceptant de voir ce film.
Voilà, donc vous serez là le 31 janvier.
Et puis surtout, on ne vous verra plus jamais, parce qu'une fois que vous aurez vu ce film, vous ne voudrez plus nous parler.
Exactement.
Et le prochain épisode.
Et oui, la semaine prochaine, mais ça va être quoi? Et oui, All I Want for Christmas Is You.
C'est on revient pour un épisode spécial.
Voilà, épisode spécial de Noël. Donc on espère être nombreux à vous retrouver là-bas. En attendant, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des pouces bleus,
à
tout
nous
ça.
À nous suivre sur Instagram, iTunes, Spotify, Deezer et toutes les plateformes.
Big up à ta tata.
Big up à ma tata.
Et à ma maman.
Oui, à ma tata surtout.
Surtout à ta
tata. Et à ta maman. Merci à toi Cyril, merci à toi Doud, merci à toi Raph.
Merci à vous. Soir.
On vous fait des énormes bisous. Partagez, likez et on se retrouve la semaine prochaine.
Allez, salut.
I see everyone run off that field, get locked off when I'm up front. Don't try approach me, Hazard and Smokey, don't be dumb. I still send emoji, one time trophy to gorgeous ones. Spartan baby with the realest ones. And I see a ex nigger in Giuseppe shoes, but baby they're all season, he ain't got nothing on me and you know that, so tell me who's he pleasing. Spartan and my Spartan and bad, we don't reason. Mad Max, splash him not easy, we mash bread, get mashes and get beefing. You say that you hate it, but it's okay, you know you're fly. We conversating on FaceTime or after midnight. You tell your friends that you're mine, I won't deny. Kiss on your neck, make you shy. You say that you hate my life, I tell you don't worry, I'm beefing with cowards, they hide. Mission, I mash all the time. Pagan them see me, they see me, but they acting blind. Forrest Gump,
I see everyone run off that field, get locked off when I'm up front. I don't try approach me, Hazard and Smokey, don't be dumb. I still send emoji, more time trophy to go just once. Spartan baby with the realest ones. Forest Gump, I see everyone run off that field, get locked off when I'm up front. I don't try approach me, Hazard and Smokey, don't be dumb. I still send emoji, more time trophy to go just once. Spartan baby with the realest ones.